Une semaine d'actualité. Pierre-Édouard Deldic.
Bonjour, c'est au cœur de la rédaction du journal Le Monde que nous vous proposons de revivre 7 jours d'actualité, toujours avec le reportage de la rédaction de RFI. C'est symbolique, nous sommes au service international du quotidien qui fête ses 70 ans en cette dernière partie de l'année. Le premier numéro de ce journal dit de référence est daté du 19 décembre 1944. Un encadré à la une indiquait ce jour-là que le journal devait fournir des informations claires et vraies et devait faire triompher une révolution par la loi. Une semaine d'actualité, une émission à podcaster sur le site de la radio, www.rfi.fr. Nous sommes en compagnie de trois journalistes du quotidien. Franck Nouchi, qui a sélectionné des articles du journal depuis 70 ans. Articles qui sont publiés dans un beau livre publié chez Flammarion. Christophe Ayad, du service international. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Bonjour Franck.
Bonjour.
Nouchi aussi. Et Cyril Ben-Simon, spécialiste de l'Afrique que les auditeurs de RFI connaissent. Bonjour Cyril.
Bonjour.
Ça fait bizarre d'entendre votre voix à nouveau.
Eh ben oui, c'est un retour à cette maison que j'ai quand même fréquentée pendant près de 20 ans.
Voilà. Où sommes-nous, Franck Nouchi, symboliquement, nous sommes au cœur de la rédaction.
On est au service international, donc au cinquième étage de l'immeuble du boulevard Blanqui, au quatrième étage, pardon, Christophe me corrige, donc dans l'immeuble du boulevard Blanqui à Paris, dans le 13e arrondissement. Cet immeuble est le quatrième qu'a occupé le
Monde. C'est la question que je voulais vous poser, vous avez connu pas mal de déménagements. Hein.
Voilà, on a commencé rue des Italiens, à côté de l'Opéra, et puis ensuite on a déménagé rue Falguier dans le 15e arrondissement, puis rue Claude Bernard, pas loin d'ici, dans le 5e, et finalement, on est arrivé ici il y a quelques années.
Alors, quel effet ça fait de travailler dans un journal de référence? Parce que c'était le but du Monde en 44, non?
Le but était, assigné par le général de Gaulle à Hubert Beuve-Méry, le fondateur du Monde, faire un journal d'audience internationale. Un journal qu'on lirait dans les chancelleries, un journal qui serait commenté un petit peu partout dans le monde entier. C'était ça l'idée du général de Gaulle au départ. Il voulait que le Monde remplace le Temps, qui était un journal qui paraissait en France avant-guerre, qui s'était fourvoyé pendant l'occupation et dont la parution avait été ensuite interdite à la Libération. Et donc, de Gaulle voulait que la France se dote d'un grand journal d'audience internationale. Ce que ça fait de travailler dans ce journal, je sais pas, il faudrait demander à mes camarades.
Une lourde responsabilité.
C'est une responsabilité, c'est un bonheur aussi. C'est le bonheur de se sentir libre, d'écrire ce qu'on a envie et de participer à une histoire qui effectivement a commencé depuis 70 ans et qu'on raconte dans ce livre.
Alors, Franck Nouchi, vous parliez des déménagements, quatre déménagements qui ont correspondu à quatre époques de la vie du journal aussi. Ces déménagements ne sont jamais neutres.
Le premier déménagement, donc de la rue des Italiens à la rue Falguier, c'était un moment où on allait très mal financièrement parlant. Le Monde était au bord de la faillite et donc il fallait qu'il vende tous ses bijoux de famille pour essayer de s'en sortir. C'est ce qui fait qu'on a quitté cet endroit sublime de la rue des Italiens, l'endroit d'origine du Monde, pour aller dans un bel immeuble, d'ailleurs rue Falguier, mais qui s'est avéré très vite trop petit. Et ce qui nous a obligés à déménager assez vite ensuite rue Claude Bernard. Et là, on a rencontré un certain nombre de problèmes liés à la présence d'amiante. Et plutôt que de rester au moment où on désamiantait l'immeuble, comme ça se fait dans d'autres endroits, on a préféré déménager. Tout ça, effectivement, accompagné aussi la transformation du journal, l'arrivée d'Internet, l'arrivée des différentes éditions numériques du Monde, etc. Mais c'est deux histoires relativement différentes.
Alors, on va évidemment parler de l'évolution du Monde. Là, j'ai sous les yeux plein d'articles du journal. Je m'intéresse d'abord à l'écrit. Et vous écrivez dans la préface du livre, Franck Nouchi, qu'il y a dans les jeunes du Monde un moralisme catholique et un puritanisme protestant.
C'était là encore la volonté de De Gaulle. Il voulait que à la tête du Monde il y ait un personnage qui soit issu de la résistance, si possible d'origine catholique, mais il voulait qu'on n'oublie pas qu'à la tête du Monde il y a aussi un protestant. Il y avait cette volonté de voir les deux chapelles représentées à la tête du journal. Il ne faut pas oublier que Hubert Beuve-Méry, durant la guerre, a séjourné pendant assez longtemps dans cet endroit dans les Alpes qui s'appelle Uriage, qui était en quelque sorte l'école des cadres de Vichy. Beaucoup de ces cadres sont ensuite entrés dans la résistance, et ce qui fait que Beuve-Méry, qui avait été en plus correspondant du Temps, à Prague, il avait démissionné du Temps au moment des accords de Munich, Beuve-Méry avait toute légitimité aux yeux de De Gaulle pour diriger le Monde, bien que n'étant pas gaulliste.
Hubert Beuve-Méry, qui est la figure tutélaire du journal. Hubert Beuve-Méry, qui est la
figure
tutélaire.
C'est le fondateur. Oui, c'est le fondateur, c'est celui auquel on se réfère quand ça va pas bien. On regarde ce qu'il a écrit, ce qu'il a dit. Et ça nous aide.
C'est vrai qu'il aurait dit, lui ou quelqu'un d'autre, faites emmerdant en fait.
Faites chiant. Il paraît qu'il ne l'a jamais dit en réalité. Mais c'est vrai qu'il aimait l'austérité. C'était un homme très austère.
Une semaine d'actualité donc dans le monde et au monde également, et partons avec quelques instantanés comme de chaque semaine, d'abord à Hong Kong où des milliers de manifestants qui veulent que la promesse faite par Pékin de permettre aux électeurs de l'ancienne colonie britannique rétrocédée à la Chine en 1997 d'élire leur propre exécutif local soit respectée. Reportage parmi beaucoup d'autres cette semaine de Florence de Changy lundi.
Que ce soit à Mong Kok, à Central ou dans plusieurs autres quartiers de Hong Kong, l'ambiance était plutôt à la fête. Pas de policiers en vue, mais des milliers de manifestants qui continuent d'affluer. Tumbo, lui, est bénévole pour distribuer des snacks aux manifestants qui arrivent à Admiralty, l'endroit où tout a commencé, non loin des immeubles du gouvernement.
Nous, ce que l'on veut en donnant à manger à tout le monde, c'est qu'ils prennent des forces pour rester le plus longtemps possible ici et poursuivre la révolte. Et que tous ensemble, on gagne cette bataille.
Un ultimatum a été adressé lundi soir par les leaders du mouvement au gouvernement, lui demandant 1. De démissionner, 2. De faire revenir Pékin sur sa décision, 3. De rouvrir la place Civic Square au public, 4. D'accepter que les candidats au poste de chef de l'exécutif soient nommés par les Hongkongais.
La situation est évidemment à suivre dans nos journaux, ça c'était au début de la semaine, on va entendre Christophe Ayad dans un instant, mais je précise que Franck Nouchi, que la Chine a toujours été très présente dans le journal, je pense notamment à des articles que vous avez sélectionnés de Robert Guillain de 1956, et un énorme portrait de Mao, lors de la mort de Mao en 76, qui fait 4 pages du livre.
On a publié au long, effectivement, c'est un choix, la nécrologie, l'article qu'on a publié donc au lendemain de la mort de Mao Tse-tung, article qui était co-signé par Robert Guillain et Alain Bouc. Oui. En fait, il se trouve que le correspondant du Monde à Pékin de l'époque avait repris une vieille nécro de Robert Guillain, il l'avait actualisée, ce qui lui avait permis de co-signer avec cet immense journaliste qu'avait été Robert Guillain. Il faut relire les papiers de Robert Guillain en Chine, mais pas simplement, dans toute l'Asie. Il a couvert l'Asie d'une façon tout à fait extraordinaire dans les années 50 et au début des années 60.
Alors, Hong Kong affirme sa spécificité face à Pékin, titré donc Le Monde mercredi. Que pensez de ce mouvement, Christophe Ayad?
C'est intéressant parce qu'on le voyait un petit peu venir depuis le mois de juin, et en même temps, nul n'imaginait qu'il y aurait de telles foules. Et ça pose quelque chose qu'on attend depuis longtemps, qui s'est posé à Tiananmen, même si je pense que la comparaison est un peu fallacieuse.
On l'a beaucoup faite.
Voilà, on l'a un peu trop faite peut-être, parce que je pense que l'issue ne sera pas du tout la même. Mais ça pose la question de l'avenir de cette Chine continentale, qui n'est plus du tout la même qu'à l'époque de Tiananmen. Elle est beaucoup plus riche, beaucoup plus nationaliste, beaucoup plus sûre d'elle. Est-ce que une dose de démocratie va être indispensable pour que le marché puisse continuer à fonctionner, ou est-ce que cette dose de démocratie va dérégler la croissance chinoise, le système qui repose sur une ouverture économique maximale et une fermeture politique tout aussi maximale. Ça va être l'enjeu principal du mandat du président Xi Jinping, qui a commencé par un durcissement terrible par rapport aux libertés et à l'intérieur même du Parti communiste. Il a repris en main le Parti communiste.
Avec la lutte contre la corruption,
voilà,
devant.
Qui s'apparente presque parfois à des mouvements passés qu'on a pu connaître, notamment la révolution culturelle. Alors c'est pas le cas, c'est pas une révolution d'extrême gauche, mais il y a quelque chose de très moralisateur qui bouscule l'appareil qu'a mis en place Xi Jinping. Là-dessus, Hong Kong, qui a toujours eu une spécificité à cause de son passé colonial, pose un problème et c'est regardé partout en Chine, même si les Chinois n'ont peu accès à l'information, mais partout autour de la Chine, à Taïwan, oui, où on se demande quelles vont être les relations si Pékin promet un seul pays et deux systèmes. Est-ce que Pékin est capable de tenir ses promesses? Et puis c'est regardé aussi au Vietnam, au Japon, parce que la Chine fait peur. Elle ne fait pas que peur, mais elle fait peur.
Alors il faut rappeler qu'il y a eu un appel jeudi à la négociation, donc l'heure est à la négociation, semble-t-il, dans ce mouvement à Hong Kong.
Oui, alors il semble qu'il y ait eu une décrue des manifestations de rue et qu'on aille vers une reprise des négociations, ce qui est la preuve de la maturité et aussi de la prudence des deux acteurs. Que ça soit les leaders étudiants de ce mouvement Occupy, qui, je pense, ont très peur il y a des divisions à l'intérieur de ce mouvement et ils ont très peur.
Que vous avez montré d'ailleurs dans un article que Florence de Changy nous a expliqué à l'antenne.
Voilà, Florence étant la correspondante et du Monde et de RFI.
La synergie.
Voilà. Il y a cette peur d'aller trop loin et de casser tous les acquis. Il y a une peur réelle de Pékin de casser son image internationale et même dans son pourtour immédiat à Taïwan, voire dans des endroits peut-être un peu plus libéraux qu'à Pékin, Shanghai je pense notamment, etc. Donc tout le monde fait baisser la tension, mais ce n'est que partie remise. La question du suffrage universel à Hong Kong n'est pas réglée et ça, c'est un vrai problème pour Pékin.
RFI, suite d'une semaine d'actualité au journal Le Monde, et il nous faut évidemment parler de l'organisation de l'État islamique qui, malgré les frappes de la coalition, ne désarme pas, au contraire. Exemple, Kobané à la frontière turque, la troisième ville kurde à la frontière entre la Turquie et la Syrie. Correspondance jeudi matin de Jérôme Bastion.
Les combattants islamistes sont entrés dans Kobané la nuit dernière pour la première fois après 17 jours de siège et de bombardement. Ils sont entrés en nombre avec leurs tanks et des combats extrêmement violents s'en sont suivis qui ont fait des dizaines de morts et de blessés côté kurde. Ils ont pour la plupart été évacués en Turquie. Ce sont des combattants du YPG, les forces de défense populaire du Kurdistan syrien, du PKK turc et de l'armée syrienne libre qui prêtent main forte aux Kurdes. Et puis les bombardements de la coalition ont une nouvelle fois donné un coup d'arrêt à l'avancée des troupes de l'État islamique vers le milieu de la nuit en frappant les trois fronts qui enserrent Kobané, au sud, à l'est et à l'ouest. Vu de Turquie, au matin, la situation semble calme, il n'y a plus de bombardements sur Kobané, on entend juste des tirs sporadiques d'armes automatiques. Militairement donc, la situation est particulièrement critique, il est patent que les Kurdes n'ont plus les moyens de résister à l'avancée des djihadistes, les bombardements de la coalition ne leur amenant que des répits de brève durée.
La situation est évidemment à suivre dans nos journaux. J'ajoute que jeudi, le Parlement turc a autorisé le gouvernement à intervenir militairement contre la menace de tous les groupes terroristes, je cite. De son côté, la France a renforcé son dispositif dans cette guerre contre l'organisation de l'État islamique. Nicolas Falaise, mercredi.
Jusqu'à présent, 6 avions Rafale français ainsi qu'un appareil de reconnaissance et un avion ravitailleur ont participé aux frappes contre les djihadistes de l'État islamique. Tous décollent de la base d'Al-Dafra aux Émirats arabes unis et c'est donc ce dispositif qui doit être renforcé. Que s'est-il passé depuis que la France s'est engagée militairement en Irak aux côtés d'aviation américaine? L'organisation de l'État islamique s'adapte à cette nouvelle situation, explique une source diplomatique française. Les djihadistes évitent désormais de se déplacer en colonne de pick-up et de planter leur drapeau noir partout. Ça va être long et difficile, reconnaît-on dans l'entourage du président de la République, comme au ministère de la Défense, où l'on rappelle qu'il n'a jamais été question de détruire l'organisation de l'État islamique par la seule voie des raids aériens. Rien. Les frappes servent à stopper la progression des djihadistes pour les mettre à portée de l'armée irakienne, explique une source française. L'autre volet de cet engagement français au sein de la coalition, c'est précisément le soutien aux forces locales au sol, armée irakienne et Peshmerga du Kurdistan autonome. La France a d'ailleurs annoncé ce mercredi l'envoi de moyens supplémentaires destinés à ces combattants kurdes.
Je rappelle d'autre part qu'Alger dit avoir identifié certains des assassins d'Hervé Gourdel. Suite d'une semaine d'actualité au cœur de la rédaction du Monde, au service international du Monde, en compagnie de Christophe Ayad, Cyril Ben Simon et Franck Nouchi. Christophe Ayad, vous avez consacré 2 pages, je crois que c'était dans l'édition de vendredi, j'en suis même sûr, du Monde, 2 pages aux Kurdes, qui sont au cœur aujourd'hui de cette guerre.
Oui, alors ils sont, évidemment, géographiquement, ils se trouvent enquistés sur le territoire que l'État islamique veut transformer en califat, enfin, ou prétend avoir transformé en un État. Et on s'est intéressé à l'autre faction kurde, parce qu'en fait il y a deux grands acteurs kurdes. Il y a les Peshmerga de Barzani qui vivent en Irak, qui disposent d'une autonomie large et dont on a beaucoup parlé, que la France aide militairement en lui livrant des armes, mais pas seulement la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Tchécoslovaquie, l'Australie, etc., toute une coalition. Mais il y a surtout le PKK qui est une organisation kurde turque extrêmement connue, ancienne, et en conflit larvé ou ouvert avec Ankara depuis plus d'une vingtaine d'années, et qui lui se bat les armes à la main en Syrie, notamment dans cette ville de Kobané qui est assiégée, attaquée par les djihadistes de l'État islamique. Donc en fait, toutes les contradictions, tous les problèmes, les non-dits de cette intervention sont en train d'éclater au grand jour de manière très rapide avec cette bataille de Kobané, puisque les raids aériens ne peuvent pas servir à stopper une force djihadiste s'il n'y a pas des combattants au sol. Et les seuls combattants au sol, ce sont les gens du PKK venus de Turquie. Or, la Turquie n'est absolument pas prête, même si elle va s'engager dans la lutte contre l'État islamique, à faire ce cadeau d'aider le PKK à combattre l'État islamique.
Parce qu'il faut rappeler que le PKK veut un Kurdistan indépendant.
Voilà, alors il a mis un peu cette demande en retrait parce qu'il sait que c'est pas tout à fait à l'ordre du jour et qu'il aimerait vraiment se débarrasser de cette étiquette d'organisation terroriste pour lui aussi recevoir des aides, mais on n'est pas prêt de faire ça, donc on va assister probablement, hélas, au massacre des populations de Kobané, des Kurdes syriens, soutenus par des Kurdes turcs, sous les yeux de la coalition internationale, à 5 à 10 kilomètres de la frontière turque. C'est-à-dire que, à vue d'œil, on va voir des gens se faire décapiter et massacrer par cette force djihadiste qui est bien supérieure en nombre et surtout en armes, puisqu'elle a saisi des arsenaux pendant ces derniers mois en Irak.
Franck Douchy, pour conclure cette première partie d'une semaine d'actualité, merci Christophe Ayad. Il faut rappeler évidemment que l'international, l'actualité internationale est au cœur du monde par définition. N'a pas été sans mal, hein. Il y a eu des divisions dans le service. Vous le rappelez très bien dans le livre, au fil du temps, il y a eu des tendances.
Non, il y a toujours eu un consensus au monde pour ouvrir sur l'international. Oui. Le Monde est un journal qui d'abord traite de ce qui se passe dans le monde, ensuite il va traiter de la France, de l'économie, de la culture, etc.
Mais il y a eu
Par contre, il y a eu effectivement des affrontements politiques, idéologiques, parfois très vifs, à l'intérieur du service où nous sommes aujourd'hui. Plus aujourd'hui, mais dans les années 60-70, ces affrontements ont parfois été, non pas violents, au sens où Christophe a décrit ce qui se passe en Turquie ou en Irak, mais des affrontements avec des mots qui parfois dépassaient ce qu'on a l'habitude d'entendre dans des rédactions. En clair, il y avait...
C'était autant de la guerre froide.
Il y avait une ligne qu'on va qualifier de tiers-mondiste, une ligne qu'on va qualifier d'anticommuniste, et puis peut-être une ligne au milieu de non-aligné. Tout ce beau monde arrivait à faire un journal ensemble, mais parfois avec des fâcheries dont on n'a pas idée aujourd'hui.
J'imagine que c'est plus calme aujourd'hui.
Beaucoup plus calme. Oui.
Franck Mouchy, il y a quand même... Confirme. On cite, Christophe, on cite toujours, pour vous taquiner un peu, mais c'est plus qu'une taquinerie, l'exemple des Khmers Rouges. On ne peut pas refaire l'histoire, reparler de tout ça, mais le monde de l'époque a salué l'arrivée des Khmers Rouges à Phnom Penh.
Oui, enfin, quand on dit le monde a salué l'arrivée des Khmers Rouges, le monde avait un envoyé spécial à Phnom Penh, qui était réfugié dans son hôtel, qui a vu le premier jour arriver les Khmers Rouges. Il a envoyé tout de suite un tout petit article qui est très court, qu'on a publié en une du Monde. Il n'y avait même pas de tourne, comme on dit, tellement il était court. Et effectivement, dans cet article, sans prendre beaucoup de précautions, mais il faut vraiment se remettre dans le contexte de l'époque, il saluait l'arrivée des Khmers Rouges.
Ça vous a fait beaucoup de mal. Hein.
Je vous précisais quand même si on veut lire le journal de cette époque, il faut lire le bulletin de l'étranger qui, lui, très rapidement, dès le 2 ou 3e jour, commençait à émettre des réserves et des critiques sur la façon dont les Khmers Rouges ont pris Phnom Penh et ont vidé sa population.
Mais ça n'empêche que cet exemple des Khmers Rouges vous a fait beaucoup de mal et a sans doute alimenté le
débat. Mais il y en a d'autres.
Il y en a d'autres. Franck Nouchy, Christophe Ayad, Cyril Ben-Simon, on va marquer une pause pour écouter les nouvelles de ces dernières heures, nouvelles de la planète, et on se retrouve dans 3 minutes. A tout de suite. Merci pour toutes ces informations. On se retrouve au journal Le Monde pour revivre 7 jours d'événements avec la rédaction de RFI.
Une semaine d'actualité.
Nous sommes en effet au cœur du service international du quotidien Le Monde qui a 70 ans. Bon anniversaire, j'ai oublié de vous le dire. Merci, bon anniversaire. Vous faites jeune encore. Et en compagnie de confrères du quotidien, Franck Nouchi, qui propose d'autre part avec d'autres journalistes du quotidien une sélection d'articles du journal 70 ans d'histoire chez Flammarion. Nous sommes aussi en compagnie de Cyril Ben Simon. Bonjour Cyril,
rebonjour. Bonjour.
Du service Afrique du Monde cette fois. Puis vous connaissez RFI, ça vous rappelle quelques souvenirs?
En effet.
Et les auditeurs se souviennent sans doute de vous. Dans quelques minutes, nous partirons pour l'Afrique, justement. Rendez-vous également avec vos messages. Mais bon, il faut préciser, même si la vocation du Monde est internationale, Franck Nouchi, que la France y a sa part.
Oui, Le Monde est aussi un journal politique d'information générale. C'était une définition qu'aimait beaucoup un ancien directeur de la rédaction du Monde, Thomas Ferenczi. Le Monde, depuis toujours, s'intéresse à la politique française. Ses premiers directeurs étaient des spécialistes, oui, d'abord et avant tout de la politique française, que ce soit Hubert Boeuf-Méry, que ce soit Jacques Fauvé, que ce soit André Laurence.
Pierre Vincent Pontet
n'a pas été directeur du Monde, mais il a été, oui, une des plus grandes, oui, signatures du journal. Ce sont d'abord et avant tout des journalistes politiques qui s'intéressent à la matière politique.
D'ailleurs, Franck, vous avez divisé ce beau livre en différents chapitres qui correspondent à des présidences.
Voilà, on a beaucoup hésité pour le chapitrage du livre et finalement on s'est dit que le plus simple était de le diviser par chapitre qui porte les noms des présidents de la Ve République, en ouvrant bien entendu par un chapitre qui est consacré à la IVe République, à la Libération et à la IVe République. Donc il y a les années de Gaulle, les années Pompidou, les années Giscard, etc. Chaque chapitre est introduit par des contributions originales de grandes plumes du monde, actuelles ou passées, et vous trouverez également à la fin du livre la série de papiers qu'ont publié en deux fois Ariane Chemin et Raphaël Baquet, qui s'appelle Le Jour Où, dans lesquels elle raconte l'envers du décor du monde, une espèce de making-of du monde, un certain nombre de journées qui ont marqué l'histoire du journal.
Et Le Monde a eu beaucoup et continue à avoir beaucoup d'influence sur la vie politique française.
Évidemment. J'espère qu'il en a toujours autant. Le Monde a eu une influence considérable sur la vie politique dans les années 40, 50, 60. Ensuite, lorsque sont arrivées la télévision, bien entendu, puis ensuite Internet, on s'est interrogé sur l'influence du Monde. On se rend compte aujourd'hui que Le Monde conserve une influence très importante. Je me rends compte aussi, à la faveur de la sortie de ce livre, le nombre de confrères étrangers qui m'appellent pour me dire « Le Monde, c'est important pour nous ». Voilà, ça nous rassure.
Et en général, c'est bon signe pour vous? Les présidents ne vous ont pas beaucoup aimé.
Ils nous ont jamais vraiment aimés. Parfois même, ils nous ont détestés. À commencer par le général de Gaulle, qui se méfiait énormément de Hubert Boeuf-Méry. Giscard d'Estaing vouait une détestation au Monde considérable, beaucoup à cause du traitement dans le Monde de l'affaire des diamants. François Mitterrand a désabonné l'Élysée, ne voulait plus que Le Monde pénètre à l'Élysée. Nicolas Sarkozy appelait le directeur du Monde, Éric Fotorino, pour l'insulter. Il n'y a qu'avec François Hollande, finalement, qui est quelqu'un qui respecte la presse, que les relations se sont relativement apaisées.
Alors il faut préciser aussi qu'en France, ces dernières années, ces dernières décennies, il y a toujours eu des auteurs, des livres qui ont critiqué le journal, qui vous ont même franchement déstabilisé. Je pense notamment à La face cachée du Monde de Pierre Péan.
Oui, alors on en parle dans le livre. Oui. La face cachée du Monde, effectivement, est un livre qui a déstabilisé Le Monde, sa rédaction. C'est sûrement mal défendu à l'époque lorsque ce livre est paru. Il y a eu beaucoup d'autres livres avant La face cachée qui était très critique à l'égard du Monde. Je pense en particulier au livre de Michel Legris, qui était un journaliste du Monde, qui avait quitté Le Monde pour des raisons politiques et qui critiquait la ligne du Monde en ce qui concerne plusieurs grands dossiers de politique internationale, le traitement par la Chine, on en parlait tout à l'heure du Monde, le traitement de la Révolution portugaise. Voilà, il formulait un certain nombre de critiques, elles qui étaient beaucoup plus intéressante à mon avis que les critiques qu'on trouve dans La face cachée du Monde de Péan et Cohen.
Une semaine d'actualité.
Et avant de partir pour l'Afrique, arrêtons-nous justement un instant en France avec des mises en examen dans l'affaire Big Malion, Simon Rosé.
Après 48 heures passées en garde à vue, les deux cofondateurs de Big Malion sont donc mis en examen. 48 heures au cours desquelles Guy Alves a confirmé au magistrat instructeur un maquillage des comptes de la campagne de Nicolas Sarkozy. Big Malion aurait en effet organisé des conventions et des meetings électoraux, puis envoyé la facture à l'UMP au lieu de l'envoyer à l'association en charge de cette campagne. Ce sont 18,5 millions d'euros qui auraient ainsi été éludés illégalement. De son côté, Bastien Millot, l'autre cofondateur de Big Malion, nie avoir participé à un tel système avant de sous-entendre que des personnalités politiques de premier plan puissent être concernées.
Certains responsables, et non des moindres, de la campagne présidentielle de 2012 essaient de se draper dans la posture d'une victime, alors même qu'ils le font sans doute un peu grossièrement et un peu rapidement.
Pense-t-il à Jean-François Copé, patron de l'UMP à l'époque, ou même à Nicolas Sarkozy, alors que la justice s'interroge encore sur son rôle dans cette affaire. Il promet en tout cas que la vérité sera bientôt connue.
L'actualité française, c'est aussi un chiffre symbolique. La dette publique française a franchi la barre des 2000 milliards d'euros. Et la victoire de Gérard Larcher à la présidence du Sénat après le renouvellement d'un tiers de la Haute Assemblée, marquée par une victoire de l'UMP et des centristes de l'UDI. A noter aussi l'élection de deux sénateurs du Front National. Suite d'une semaine d'actualité toujours au service international du journal Le Monde. Franck Touchy, continuons un petit peu à parler de la France avant de partir pour l'Afrique. Le Monde et les affaires. Là, Big Malion, c'est une affaire contemporaine, actuelle. Le Monde a été et toujours un journal d'investigation. On parle d'affaires, on traite les affaires.
Alors, vous prononcez le mot investigation pendant longtemps, on ne l'a pas prononcé.
Enquête.
Je pense qu'il y a un nom qu'il faut évoquer ici, c'est Edoui Plenel. Donc, c'est les années 84. 85 et l'apparition dans le monde de ce qu'on a appelé le journalisme d'investigation. Non pas que le monde n'en faisait pas avant, mais il ne l'appelait pas comme ça. Le monde a sorti beaucoup d'affaires avant que Edoui Plenel et Bertrand Legendre sortent ce qu'on a appelé l'affaire du Rainbow Warrior en 1985. À partir de ce moment-là, sous l'influence et sous l'égide d'Edoui Plenel, le monde s'est mis à sortir beaucoup d'affaires et le monde a été aussi beaucoup critiqué parce qu'il sortait beaucoup d'affaires. Mais effectivement, le monde à ce moment-là a commencé à vraiment déstabiliser le pouvoir politique. On se souvient de la démission de Charles Hernu au décours de l'affaire du Rainbow Warrior. Il y a eu ensuite beaucoup d'autres affaires. Le monde est aujourd'hui en pointe, par exemple, dans les affaires qui concernent, dans le traitement, dans la couverture des affaires qui concernent Nicolas Sarkozy.
Pour réagir à l'actualité, semaine.actu@rfi.fr.
Merci pour vos messages. Continuez évidemment à nous écrire. Et également à la page Une Semaine d'Actu de Facebook. Un bonjour aujourd'hui à Bertrand à Garoua, au Cameroun. Il se demande pourquoi, selon lui, la Cour pénale internationale ne poursuit que des responsables africains. Vaste débat. Bonjour à Diallo Maki à Conakry. Il est très favorable à une intervention armée contre l'organisation de l'État islamique. Un salut à Rodolphe, à Cotonou, à Gourfal, au Sénégal. Il parle de tweet génération à propos des jeunes manifestants de Hong Kong. Et un salut à Ali, à Casablanca.
Jours dans le monde.
Merci de votre fidélité. Suite d'une semaine d'actualité au monde. Et là, nous partons en Afrique. Cyril Bensimon, nous parlions tout à l'heure de la France en guerre contre le groupe de l'État islamique. Revenons maintenant sur l'engagement français au Mali avec les forces maliennes à Gao dans le cadre de l'opération Oronia. Reportage avec notre envoyé spécial Olivier Four.
La nuit tombe sur Gao. Les blindés de l'armée française, précédés par les forces de sécurité maliennes, entrent dans la ville. Le colonel Martial.
On est nécessairement sur nos gardes parce que au nord de Gao, la tension est réelle.
On va se mettre en place sur la route et puis on met en place la colonne.
Ce soir, tout est calme. Depuis des mois, les groupes armés djihadistes se font discrets. Les habitants sont même surpris de voir ces militaires français et maliens patrouiller dans le quartier résidentiel du château, le lieutenant Clément.
Actuellement, on réalise un certain nombre de patrouilles, toujours avec les forces armées maliennes. La seule présence que nous avons pu constater, c'était un tir de roquette à la mi-août.
Le lendemain matin, sur le plateau de Batal, à une vingtaine de kilomètres de Gao, c'est de là d'où partent les roquettes qui visent parfois la base française. Le colonel Martial et le lieutenant Clément rejoignent une patrouille de l'armée malienne. Ce matin, c'est un parachutiste malien, le lieutenant Boubacar, qui conduit la manœuvre.
Ok, ce matin, on a eu la mission de patrouiller dans le secteur de Batal.
À quelques kilomètres de là, un campement nomade, les militaires maliens inspectent des fagots de bois qui pourraient dissimuler des armes et tentent d'obtenir des informations sur les déplacements des djihadistes.
C'est des nomades là. Bon, ils disent qu'ils n'ont rien vu d'anormal là depuis pratiquement plus de 3 mois.
Depuis la mise en place de l'opération Oronia, les tirs de roquettes sont devenus beaucoup plus rares. Le maillage de Gao et du Grand Gao a ramené un sentiment de sécurité dans la région. Plus au nord, les choses sont différentes. La dernière position malienne est située à une centaine de kilomètres de là, à Al-Mustarat.
Cyril Ben-Simon, vous avez signé dans le Monde daté de vendredi un article justement sur les islamistes qui, je reprends votre titre, qui frappent de nouveau dans le nord du Mali.
Oui, tout à fait. Depuis déjà quelques semaines, on va dire depuis début septembre, même un petit peu avant, il y a un regain d'activité des groupes djihadistes qui avaient subi la foudre au moment du début de l'opération Serval, mais petit à petit, le dispositif français s'allège. À côté de ça, il y a des négociations qui se sont ouvertes début septembre à Alger. Évidemment, les groupes djihadistes profitent de cette situation à la fois pour se faire voir, puisqu'ils ont des intentions, ils montrent qu'ils sont encore présents, et ils profitent aussi du vide sécuritaire dans la zone, puisqu'il y a moins de soldats français, il y a les soldats maliens qui sont beaucoup moins présents aussi, depuis ce qui s'est passé à Kidal en mai, où ils ont subi une véritable débâcle, et donc les différents groupes djihadistes profitent de la situation. Il y a des retours notamment de Libye, de certains groupes, il y a eu des opérations qui ont été menées ces dernières semaines, notamment au nord du Niger, aussi au Mali, mais on voit quand même que ces groupes sont en train de se réimplanter. Ils ne sont plus dans la situation de pouvoir administrer véritablement des zones, mais en tout cas, ils font encore parler d'eux. Ils mènent des opérations terroristes. Les Tchadiens en ont été les premières victimes. Mmh. Les soldats tchadiens qui sont dans le nord du Mali, qui ont eu 10 tués ces derniers jours. Et les Tchadiens disent, en quelque sorte, là, on en a marre d'être en première ligne. Il faut venir nous aider, nous soutenir, parce que sinon, on risque de s'en aller.
Donc la situation est loin d'être revenue normale au Mali, notamment au nord Mali, d'évidence.
Il y a évidemment des mieux, puisque ces groupes djihadistes sont plus en capacité d'administrer les zones, mais les problèmes de fond, les problèmes politiques ne sont pas réglés. C'est justement tout l'objet des négociations qui se sont ouvertes à Alger, mais pour l'instant, alors avant que ça s'ouvre, on avait un certain optimisme, mais là on a vu que ces dernières semaines, il y avait quand même une sorte de dialogue de sourds entre l'État malien et les groupes rebelles, les différents groupes rebelles qui sont eux-mêmes divisés. Il y a quand même beaucoup de divergences, et la question c'est de savoir c'est quelle solution on va apporter au nord du Mali pour éviter qu'il y ait une résurgence permanente des affrontements, des rébellions, puisque ça fait quand même déjà un certain nombre d'années que ça dure et que ça recommence.
Sept jours en Afrique.
En Côte d'Ivoire, cette fois, avec la fin des audiences publiques de victimes et bourreaux d'une décennie de crise dans le pays, la fin de cette commission Vérité et Réconciliation. Reportage de Frédéric Gard.
Un homme forcé à manger sa propre oreille, que des mercenaires lui ont tranché. Une mère et sa fille violées devant ses enfants, ses frères, ses sœurs. Ce sont quelques-uns des témoignages que la commission a dû écouter pendant 3 semaines. 3 semaines pour 10 années de chroniques meurtrières racontées par l'ensemble des protagonistes, quel que soit leur camp. Abdelrahman, 21 ans, sort de l'audience en claudiquant, la jambe gauche complètement désarticulée. Déjà orphelin, il y a 4 ans, à Douekwe, il a perdu ce qui lui restait de famille.
Les gens sont arrivés chez nous et ils ont demandé après mon tuteur. Donc ils se sont mis à fouiller la maison, tout ça. Et lorsqu'ils l'ont découvert, ils l'ont tiré sur la jambe et ils l'ont mis directement dans le puits de la cour. Ils ont pris des briques pleines pour lui jeter dessus. Et moi aussi, je me suis enfui. Et c'est dans ça que j'ai eu une balle au genou.
Abdelrahman voulait être juriste. Désormais, il mendie dans les rues de Port-Boué. Et pourtant, depuis cette catharsis, il semble avoir évacué tout ressentiment à l'égard de ses tortionnaires.
Je devais le faire parce que pour me libérer de ce que j'ai au cœur et aussi exprimer mon mal avec les autres. Dire mon mal avec les autres, c'est pour dire aux parents et aux frères et sœurs que la crise n'est pas bonne.
Au total, la commission a auditionné 63 000 Ivoiriens, victimes ou bourreaux de ces 10 années noires. 80 personnes ont pu témoigner devant la commission à titre d'exemple. À présent, c'est à l'État de panser les plaies, d'indemniser, de réparer ce qui a été fait.
Suite d'une semaine d'actualité avec un reportage exclusif que RFI vous a proposé cette semaine, notre correspondante en RDC, Léa Lisa Versterhoff, s'est en effet rendue dans l'épicentre de l'épidémie congolaise d'Ebola à Lokolia, à plus de 1000 km au nord-ouest de la capitale. Rappelons qu'il y a aujourd'hui quelques 40 victimes.
Paramètres vitaux, médicaments.
Devant nous, deux infirmiers en combinaison jaune intégrale. Cagoule, masque, gants, le moindre bout de peau est couvert. Tous deux s'apprêtent à entrer dans la zone de traitement. Quatre grandes tentes blanches. À l'intérieur, un enfant suspecté d'avoir Ebola et sa maman atteinte du virus. Près de deux mois après le début de l'épidémie en RDC, il y a bien moins de patients. Mais pour Caroline Anand-Clares, responsable médicale de Médecins Sans Frontières, il est trop tôt pour crier victoire.
C'est une maladie qui peut se calmer et on peut avoir toujours un autre pic. Donc ça peut avoir un cycle d'accalmie, mais ça ne veut pas dire qu'on peut dire que c'est fini. Il faut toujours continuer avec les efforts. De surveillance, de suivi des contacts, de recherche active des patients avant de pouvoir dire que c'est fini. Gemma, comment tu te sens aujourd'hui?
Et c'est là tout le défi pour la province de l'Équateur, une zone rurale couverte de forêts, comme l'explique Christopher Sou, épidémiologiste venu des États-Unis.
Nous n'avons peut-être pas les taux de mortalité de l'Afrique de l'Ouest, mais nous avons les difficultés liées à l'environnement, à savoir la jungle, qui est si dense que dans beaucoup d'endroits, il n'y a pas de route, mais des petits chemins. La population, elle, bouge beaucoup et du coup, c'est d'autant plus difficile de suivre les contaminations. C'est un vrai défi.
À Lokolia, l'épicentre de l'épidémie, sur 14 Ebola confirmés, 6 patients ont pu être sauvés. Mais il y a une semaine, un nouveau foyer d'épidémie a été découvert.
Et je rappelle qu'un premier cas d'Ebola a été détecté aux États-Unis suite d'une semaine d'actualité. Retour au cœur de la rédaction du journal Le Monde. Alors que faut-il penser, là nous partons en Côte d'Ivoire, Cyril, de la fin des travaux de cette commission Vérité et Réconciliation, qui était relativement rapide par rapport à d'autres commissions.
Le point positif de cette commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, c'est qu'elle a permis à un grand nombre de victimes de s'exprimer, de faire savoir ce qu'elles ont vécu. Mm-hmm. Parce que je crois plus de 64 000 personnes ont été entendues au moment des collectes, on va dire, des témoignages. Donc ça, c'est une véritable, quelque part, c'est une banque de données, quoi, de savoir ce qui s'est passé. En revanche, il y a un vrai problème sur la réponse qui est donnée à ces gens. Là, quand on voit qu'en trois semaine, on a entendu 80 personnes dans une petite salle d'un hôtel luxueux. Et il y a un vrai problème même de leadership sur cette commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. La nomination de Charles Conor Bagny était une nomination politique avec un certain nombre d'implications, c'est-à-dire qu'il fallait nommer quelqu'un du PDCI quand le président Ouattara a pris le pouvoir en 2011, à l'issue d'affrontements avec les troupes de Laurent Gbagbo. Et on a quand même beaucoup de mal à voir quelles sont aujourd'hui les réalisations de cette commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. À quoi elle a servi? Est-ce qu'elle a permis réellement cette réconciliation? Pour l'instant...
Si on compare ce qui s'était passé en Afrique du Sud,
les situations ne sont pas comparables en elles-mêmes. Vraiment, on avait clairement, en Afrique du Sud, finalement, les victimes qui prenaient le pouvoir par rapport à leur beau. Là, on est dans une situation qui est beaucoup plus complexe. Des victimes, il y en a des deux côtés. On était sur une crise qui a duré quasiment une vingtaine d'années, mais qui est une crise politique avant tout. On peut pas figer le bien, le mal de chaque côté. Et là, on a l'impression qu'avec cette commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, il y a un bilan quand même très très maigre et on voit mal ce qui a été fait concrètement pour permettre aux Ivoiriens de revivre ensemble. Alors évidemment, les relations entre les Ivoiriens n'étaient pas aussi tendues, aussi déchirées. Il y a quand même un mixage de la société. Les différentes communautés ont une habitude de vivre ensemble, donc le tissu n'était pas totalement déchiré. Mais là, en tout cas, pour ce qui est du travail à proprement parler de cette commission, on peut un peu tiquer.
Alors, autre dossier brûlant, j'allais dire, dans l'actualité africaine depuis plusieurs mois, évidemment, c'est Ebola. Vous avez écouté avec attention le reportage de Léa Lisa Vesterhoff en RDC.
Oui, mais je sais bien que voilà, on parle aussi de la RDC, parce que c'est vrai que le regard est essentiellement braqué sur les trois pays qui sont et de loin les plus touchés. Hein, aujourd'hui, il faut pas se leurrer, c'est le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. Et là, on a affaire à une crise finalement où peut-être que personne n'a vu au départ la catastrophe qui était en train d'arriver. Et là, on se retrouve aujourd'hui face, en tout cas pour ce qui est de ces trois pays, à une vraie crise globale, quoi. C'est-à-dire que c'est à la fois une crise sanitaire, mais ça va bien au-delà, parce que c'est aussi une crise économique qui arrive, c'est même une crise sociale, puisque tout ça détruit finalement le tissu social de ces pays, qui étaient déjà très fragiles, notamment le Libéria et la Sierra Leone, qui ont chacun vécu des années de guerre civile, particulièrement violente, et là, on a du mal à voir comment on va sortir de ça avec une réponse internationale qui commence à se mettre en œuvre, mais qui a été quand même très tardive. Là, maintenant, les pays qui ont vraiment des moyens commencent à s'engager, mais c'est quand même très tardif. C'est très tardif. La mise en place va prendre du temps. Il va falloir former des personnels de santé. Et pendant ce temps, l'épidémie continue de grandir.
Alors, il y a un phénomène que vous étudiez en ce moment qui n'a rien à voir avec Ebola. Sur le plan politique en Afrique, c'est le problème des constitutions que certains présidents voudraient changer dans certains pays du continent.
Oui, là on a une série d'élections qui nous attend à partir de la mi-2015, qui est, on pourrait dire, à haut risque, puisqu'on a pas mal de pays où les chefs d'État, normalement, devraient passer la main, mais ils montrent aucun signe d'avoir envie de s'en retirer et prendre leur retraite.
Il faut donner des exemples.
Alors, il y a le Burundi. Le Burundi est un peu un cas à part, puisque là, le président de Nkurunziza, de par les textes, peut se représenter, normalement. Mais sinon, on a la RDC, pays encore très fragile, et si le président Kabila, comme il le... On va dire, il y a pas mal de signaux qui le laissent penser, va modifier la constitution, ou en tout cas... faire en sorte de pouvoir continuer à occuper la présidence, ça risque de provoquer quand même un certain nombre de troubles. En tout cas, on peut s'en inquiéter. Il y a aussi le Burkina Faso, où Blaise Compaoré montre aussi des signes évidents.
Il y a un grand débat
et il montre en tout cas des signes évidents qu'il faudrait organiser un référendum pour se maintenir. Il y a le Congo-Brazzaville, où là, c'est encore un autre type, où là, il faut créer une nouvelle république pour que Denis Sassou Nguesso puisse continuer à occuper ses fonctions. Et puis aussi, un petit peu plus loin, le Rwanda, avec cette question, est-ce que Paul Kagame, en 2017, va continuer, pas continuer ? Lui-même, elle a laissé entendre que tout cela, ça dépendrait de la population. Et si les gens le voulaient, bon, peut-être qu'il continuera. Donc déjà, ça laisse entendre quand même qu'il est sur le chemin.
À lire prochainement donc dans Le Monde ?
Normalement, oui.
Normalement.
Très bientôt. Très bientôt. Je ne peux pas vous dire encore la date, mais ça devrait pas tarder.
À lire, en tout cas. Franck, merci Cyril. Cyril Bentimon. Franck Nouchi, on va conclure cette émission avec vous. Il faut préciser que l'Afrique a, elle aussi, toujours été présente dans le quotidien Le Monde. Et j'ai une pensée, comme Cyril sans doute, pour Jean-Hélène.
Oui, dont on produit un article au moment du Rwanda, justement. Oui. On a reproduit un de ces articles à côté d'un reportage de Corinne Laine également sur le Rwanda.
Alors, il y a le Rwanda, il y a aussi d'autres périodes. Cyril, vous vouliez dire un mot ?
Oui, et puis on continue encore vraiment à s'intéresser à l'Afrique et à investir sur ce continent, puisqu'à la fin de l'année, on a un site internet dédié à l'Afrique, c'est-à-dire une version africaine du site lemonde.fr qui va être ouverte avec des correspondants, une équipe dédiée. Donc, évidemment, quand on est un média francophone, on ne peut pas tourner le dos à l'Afrique. Et même, au contraire, il est temps de s'y investir et de voir que c'est certainement sur ce continent qu'on pourra gagner des lecteurs.
Donc, pour s'intéresser à l'Afrique, il faudra aller sur le site de RFI et le site du Monde, hein, par exemple. C'est une idée que je donne à nos auditeurs. Franck Nouchi, on va terminer avec un extrait d'un papier de Pierre Georges qui a été dans cette maison. Vous terminez d'ailleurs ce livre avec lui.
Et comment ? Absolument.
Et il vous donne un conseil. Il dit, il va falloir souquer ferme sur Internet pour sauver le navire amiral. Il parle du Monde, du journal, pour refaire le monde et échapper à ce tsunami d'ennui, de médiocrité et d'égotisme généralisé. Tout un programme.
Absolument. Mais ça, on retrouve la patte de Pierre Georges, ce regard toujours un petit peu ironique qu'il pose sur ce qui se passe dans les médias, cette société du spectacle qui lui plaît pas beaucoup et cette presse papier, comme il dit, qu'il adore et qui lui a donné tant de bonheur.
Alors, ce qui va nous permettre de dire que Le Monde n'est plus simplement un journal papier, justement.
Ah non, aujourd'hui Le Monde c'est un journal papier,
Cyril
c'est un site internet,
dire, oui.
Cyril l'a dit, c'est toutes sortes de chaînes sur internet, ce sont des applis sur différents supports. Aujourd'hui l'audience du Monde est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importante en dehors du papier que sur le papier, mais on reste très attaché à ce journal en papier qui apparaît tous les jours et qui est daté du lendemain.
Oui, c'est la particularité du journal, parce que du papier on a partout dans cette rédaction, comme dans toutes les rédactions. Il y aura peut-être un jour où il n'y aura plus de papier, justement. Ça, c'est la grande question qui se pose pour tous les quotidiens.
J'en sais rien. Au fond, j'en sais rien. Je pense que si on continue à faire un journal de qualité, et toujours plus de qualité, je pense qu'on a encore quelques beaux jours devant nous.
On sent que vous avez pris un grand plaisir à faire ce livre, en tout cas, ce très beau
J'ai
livre.
J'ai adoré ce voyage.
Mais quel travail, parce que résumé, même, combien, il y a 300 pages
Non, il y a 500 pages. Oui. Il y a 500 pages, on aurait pu en faire 1500, 2000, sans aucun problème.
Évidemment.
C'était un magnifique voyage dans ces 70 ans. Relire Le Monde, c'est un privilège formidable.
Merci Franck Nouchi, merci Cyril Ben-Simon de nous avoir accueillis donc au cœur du journal Le Monde, au service international de la rédaction. Et il faut donc lire ce gros et beau livre sur Le Monde, 70 ans d'histoire aux éditions Flammarion. Merci de nous avoir accueillis.
Merci à vous.
Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovensky, prise de son Marc Fichet. Une émission que vous pouvez écouter, podcaster aussi sur le site de la radio, www.rfi.fr, après avoir consulté le site du Monde bientôt Afrique. Je vous retrouve demain pour le magazine Idées. Nous parlerons des sciences et de l'innovation. Faut-il innover à tout prix? Justement, c'est une bonne question qui vous intéresse aussi. Nous serons en compagnie d'un spécialiste de l'histoire des sciences, Michel Blais. Demain dimanche, 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.